Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Jean Sévilla.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes journaliste, vous êtes historien, vous avez à votre actif de nombreux ouvrages et vous avez publié de nombreux ouvrages remarqués dans le domaine de la pensée, de l'essai à cheval entre l'histoire et la politique, dans le domaine de l'histoire tout court. Vous êtes le biographe de l'impératrice Zita et de son mari Charles de Habsbourg, des biographies séparées des biographies croisées. Vous avez écrit un ouvrage ancien maintenant, mais qui relatait un épisode lié à l'Autriche, ce chouan du Tyrol qui réunit un peu nos deux pays. Vous avez écrit un livre sur l'Autriche qui a dit non au nazisme. Et puis vous avez publié en 2000 un ouvrage fort remarqué, Le terrorisme intellectuel, que vous avez réédité, augmenté, retravaillé et qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, en 2025, en janvier 2025. Ce terrorisme intellectuel, vous le disiez tout de suite à la fois dans votre avant-propos et Mathieu Bock-Côté dans son introduction, il est loin d'être mort, il ne renaît même pas de ses cendres, les braises sont toujours bien chaudes, mais en 25 ans, il a muté, il s'est peut-être radicalisé, il s'est ébréché, lézardé dans certains domaines et il nous a semblé important pour éclairer un peu nos auditeurs de revenir sur cette notion de terrorisme intellectuel à l'issue de ces deux tours des élections municipales qui, même si ce ne sont pas des élections nationales, disent quand même beaucoup sur l'état de notre pays. Alors, Jean Sévilla, nous parlerons au début de cet entretien un peu du Figaro, puisque c'était les 200 ans de l'anniversaire du Figaro, mais juste une première réaction de votre part pour l'essayiste, celui qui réfléchit et l'historien que vous êtes sur ce climat qui a précédé, accompagné et qui suit ces élections municipales.
Alors, je ne suis pas là, merci d'abord de votre invitation, chère Anne Collin, je ne suis pas là pour m'envoyer des compliments. Mais j'ai le triste, je dois faire le triste constat que, d'une certaine manière, le travail que j'ai opéré à partir de l'an 2000, pour schématiquement autour du terrorisme intellectuel, se révèle d'une triste actualité, n'a jamais changé. Voilà. On a vu au cours de cette campagne des municipales, on l'a vu au moment de la dramatique affaire de Lyon, de ce garçon qui a été tué par des antifas, combien tous les vecteurs culturels, idéologiques, politiques, médiatiques qui sont en place restent dominés par cette idée que être de droite c'est mal, être de gauche c'est bien, qu'être d'extrême gauche n'est pas un problème, que d'extrême droite est un péché impardonnable, etc., etc. Toute la logique de l'antifascisme, d'un antifascisme qui est à la quête d'un ennemi imaginaire, parce qu'il y a pratiquement pas de fascistes en France, ou de manière très résiduelle dans des petits groupuscules, voilà. Tout ça reste que j'avais, pardon de le dire, de le rappeler, mais que j'avais analysé l'antiterrorisme intellectuel en 2000, est resté en place, voilà. Alors, il y a des changements, en effet, c'est qu'il y a d'abord le mur de la pensée unique était partiellement ébréché. Il y a des sujets qu'on peut sur lesquels il y a des critiques, la question de l'immigratoire, par exemple. Il y a des critiques qui autrefois venaient du camp, je dirais, de la droite, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème de l'immigration. Enfin, alors peut-être pas chez les filles, bien sûr, mais enfin, il y a même des gens de gauche qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France, que le problème n'est pas maîtrisé. Voilà, donc de ce point de vue-là, le paysage a un peu changé. Et puis, il y a un paysage de... Est-ce qu'on peut l'appeler de droite, conservateur, peu importe l'étiquette, enfin, qui s'est élargi. En 2000, j'étais assez isolé dans le travail que j'avais opéré. Aujourd'hui, il y a de très nombreux jeunes journalistes, essayistes, historiens, philosophes, qui se présentent comme j'allais dire conservateur, moi c'est une formule qui ne me dérange pas. Donc il y a un renouveau de la pensée anticonformiste, de la pensée conservatrice. Voilà. Ça c'est assez nouveau par rapport à il y a 30 ans et ça ne fait que me réjouir. J'ai été un peu pionnier, voilà, j'ai sans doute joué un rôle dans la formation de cette génération et je m'en réjouis.
Mathieu Bocoté, à la fin de son introduction dans votre ouvrage dont je n'ai pas donné le titre de 2025 puisqu'il s'intitule « Les habits neufs du terrorisme intellectuel » avec évidemment un clin d'œil sur les habits neufs de l'empereur. Mathieu Bocoté termine sa chronique de façon très élogieuse. Tous doivent beaucoup à Jean Sévilla. C'est la dette à l'endroit du pionnier. La dette à l'endroit d'un des premiers à avoir dit non, la dette à l'endroit d'un des rares à avoir dit, lorsqu'il était très risqué de le dire, que le régime ment. Jean Sévilla fut un des premiers dissidents du régime diversitaire. Les habits neufs du terrorisme intellectuel, nous lui devons beaucoup de gratitude. Il faut le lire parce que ceux qui le liront sortiront de la lecture de ce formidable ouvrage en comprenant bien mieux le système dans lequel nous sommes englués, le régime qui pèse sur nous et la meilleure manière de le combattre en le dévoilant tout simplement.
Je rougis sous les compliments de Mathieu Bocoté.
Mais c'est vrai qu'on mesure peut-être mal, en tout cas, on oublie, et les nouvelles générations ne l'ont pas vécu, combien il pouvait être difficile en 2000, de dire ce que vous venez de dire. C'est peut-être ça, comme vous l'avez, c'est peut-être ça, là où le mur s'est lézardé, c'est qu'on a des canaux, on a des possibilités de dire les choses que l'on n'avait pas il y a 25 ans.
Oui, il y a 25 ans, le lieu, sur un plan médiatique, le lieu de la pensée libre, un micro, c'était Radio Courtoisie, et moi j'ai été un grand ami de Radio Courtoisie, un peu, je dirais, dès l'origine. Mais il y avait à peu près que ça, voilà. Puis bon, il y avait la presse écrite, bien évidemment.
Il y avait le Figaro Magazine.
Non, il y avait la presse écrite. Hein. Je parlais du radio-télévision. Il n'y avait pas de télévision.
Non.
En radio, il n'y avait que Radio Courtoisie. Et du point de vue de la presse écrite, il y avait le Figaro Magazine. Il y avait Valeurs Actuelles, quand même, déjà, à l'époque, hein, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et puis c'était des petits journaux un peu des fanzines, voilà. Mais aujourd'hui, le paysage s'est élargi. Il y a évidemment le groupe Bolloré, CNews, JDD, Europe 1, qui est évidemment une puissance considérable. Radio Courtoisie est toujours là et même a maintenu et rajeuni son équipe et sa méthode de travailler. Quand je vois le studio d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être ailleurs que là où j'étais avec Jean Ferré il y a 30 ans.
Attention, les auditeurs vont mal le prendre, ils vont croire que Radio Courtoisie a changé. Non, on donne
Non, quand
enfin
je dis changer, c'est que
possibilité à ceux qui y travaillent d'y travailler agréablement et à nos invités d'y être bien reçus.
Absolument. Non,
alors c'est vrai que
Le mot changement dans mon était positif dans mon esprit.
Bien sûr, hein. C'est vrai qu'il y a une certaine forme de nostalgie tout de même de ce studio dont il fallait faire très très attention à la marche parce que tout le monde butait. Je raconte souvent cette anecdote, mais Charles Pasqua, un jour arrivant, on lui dit attention, est-ce qu'on l'appelait monsieur le ministre, monsieur le président, je ne sais pas, à ne pas tomber parce qu'il y a une marche. Et avec son accent du sud, il nous dit oh là là, des obstacles, j'en ai connu beaucoup. C'est pas elle qui me fera trébucher. Donc, bon, voilà, on est nostalgique de cette petite marche. C'est vrai que nos portraits des anciens ne sont pas revenus encore accrochés au mur, mais voilà, on travaille dans d'agréables conditions.
Non, c'est magnifique.
Mais alors, Jean Sévilla, vous parlez, on vient d'évoquer le Figaro Magazine. Je lirai un extrait de votre ouvrage qui cite Louis Powells, parce qu'effectivement, le Figaro Magazine, où vous avez fait une très très grande partie de votre carrière.
Une très grande, la quasi-totalité. J'y suis entré en 1981. J'étais journaliste depuis 2 ans et demi à l'époque. J'étais jeune, voilà. Et j'y suis encore, voilà. Enfin, plus à plein temps, mais j'ai toujours une chronique hebdomadaire de suivi des livres d'histoire.
Oui, et donc, 81, c'était le début du Figaro Magazine.
Ah oui, le magazine a été fondé en 1978.
C'est ça.
Le journal avait 2 ans quand le magazine avait 2 ans quand j'y suis entré.
Voilà. Attention, c'est presque une citation de Victor Hugo.
Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, effectivement. J'ai connu, et on a oublié en effet ce qu'était la puissance de feu du Figaro Magazine des années 80 et l'animosité qu'il suscitait à gauche. Il y a des campagnes, une violence incroyable contre le Figaro Magazine, qui était vu comme un journal d'extrême droite, de fasciste. C'était quasiment ça. Hein. Il y avait des éditoriaux de Jean-François Kahn qui a évolué par la suite, qui est devenu parfois presque aussi à droite que nous, je dirais en plaisantant. Où Lupo Hesse déclenchait, qui était un excellent éditorialiste, un journaliste de grand talent, ses éditoriaux déclenchaient des réponses furibardes. Max Gallo était un grand adversaire du Figaro Magazine, avant lui aussi d'évoluer dans l'autre sens bien après. Enfin, je veux dire, non, c'était un grand magazine, ça a été une grande page d'histoire de la presse française, et à l'époque, ça a été une grande ouverture d'esprit pour une droite qui n'avait pas de lieu d'expression. Et, bon, puisque nous sommes de Radio Constructive, il faut quand même rappeler que Jean Ferré a été le chroniqueur radio du Figaro Magazine au début des années 80. C'est le phénomène des radios libres, et le Figaro Magazine avait confié à Jean Ferré une chronique de suivi de la radio. Donc c'était vraiment un espace de liberté. À l'époque, ça a été reçu comme ça.
Hein. Oui, et c'est vrai que les 200 ans du Figaro qui ont été célébrés mi-janvier 2026 au Grand Palais, ont été l'occasion de redonner toute sa dimension à la fois historique, politique, journalistique, littéraire, à un grand groupe souvent décrié dans nos milieux, alors qu'il y a eu ses erreurs, au gré de l'histoire, était peut-être, le Figaro Magazine était peut-être la caution de droite, de très à droite du Figaro, du groupe, mais il n'empêche que le groupe l'a toujours soutenu, maintenu.
Seulement soutenu, mais le Figaro Magazine soutenait d'une certaine manière le Figaro, parce oui. qu'à l'époque, c'était la grande époque de la publicité énorme, et le Figaro Magazine était une source de revenus tout à fait considérable pour le groupe du Figaro, voilà. Donc, et puis je dois dire par rapport à ce que vous disiez, moi j'ai eu 40 ans au Figaro, j'ai vu tous les directeurs, plusieurs actionnaires, plusieurs directeurs de la rédaction. Bon, j'ai moi-même été rédacteur en chef à un moment. Je n'ai jamais été ennuyé par le Figaro Magazine pour mes idées. Bon, on va dire. Pour faire très très court, je suis un peu plus à droite que le Figaro, voilà. On m'a jamais embêté, cherché à me nuire pour les idées que je défendais. Voilà, donc il y a une grande liberté d'expression. Le Figaro n'est pas un bloc, hein, contrairement à ce qu'on pense parfois. Voilà. Et donc il y a cette liberté, cette forme de libéralisme, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, d'intelligence. J'ai toujours été respecté dans ce que j'étais et d'une certaine manière soutenu. Enfin, je veux dire, à chaque fois que j'ai publié un livre depuis 30 ans, le Figaro Magazine et le Figaro en ont rendu compte et avec loyauté vis-à-vis de moi. Et moi-même, j'ai été loyal vis-à-vis de ce groupe de presse dont je suis plutôt fier, auquel je suis plutôt fier d'avoir appartenu et d'appartenir encore.
Alors, notre digression sur les 200 ans du Figaro vient du fait d'avoir prononcé le mot Figaro Magazine et d'avoir aussi rappelé à nos auditeurs, et quand je dis on, c'est évidemment Jean Sévilla, mon invité d'aujourd'hui, avec qui nous allons analyser ce terrorisme intellectuel qui sévit de nos jours, puisque Jean Sévilla est l'auteur d'un ouvrage, Le terrorisme intellectuel, publié en 2000, et de sa version, non pas corrigée, mais augmentée, complétée, corrigée d'une certaine manière, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, publié en 2025. Mais il est vrai qu'il était donc difficile de dire certaines choses. Et je vous remercie, Jean Sévilla, d'avoir cité dans votre terrorisme intellectuel, dans sa version de 2025, ce passage de cette chronique de Louis Poels, dont on a peut-être oublié qu'il était à l'origine de cette expression du sida mental, et qu'il faut relire dans sa totalité, si vous me permettez, je vais la lire, parce que c'est un grand morceau quand même de journalisme. Lycéens et étudiants reprennent le chemin des cours. Vous nous dites que le Conseil des ministres n'a plus qu'à gérer la cohabitation. Et on arrive, on est en 1986, et on arrive à la mort de Malik Houssekine, qui est un événement totalement oublié par beaucoup, hein, qui a été comparable à la mort de ce jeune Quentin.
Si vous permettez, hein, oui. Peut-être il faut recontextualiser pour les auditeurs.
Allez-y, bien sûr.
C'était 1986, il y avait une réforme prise par un ministre qu'on a oublié, De Vaquet, qui était une réforme des universités, voilà, qui avait mis dans la rue des. C'était une réforme de. Enfin, c'est, on, simplifions, réforme des universités, j'entre pas dans les détails, voilà. Mais ça avait mis dans la rue des milliers. À l'époque, la gauche était. Les mouvements de gauche militants étaient très importants, encore très importants à l'université et à, dans les lycées. Des milliers d'étudiants et de lycéens qui ont déclenché. Les lycées étaient en grève, les facs étaient en grève. Et en effet, il y a eu tout un mouvement et qui aboutit aussi, alors que c'est un gouvernement de droite, on était sous Mitterrand était président de la République, le premier ministre était Jacques Chirac, c'était un gouvernement de cohabitation, et la droite a reculé devant la pression de la rue et a retiré son programme de réforme. Et dans ce cadre-là, il y a eu en effet, dans le cadre des manifestations, il y a eu un drame, un manifestant, Malek Oussekine, qui est mort sous les coups de. Qui était de mauvaise santé, mais qui est mort sous les coups de qu'il a reçu de policiers. Voilà.
Et donc le Figaro Magazine publie le samedi 6 décembre 1986 un éditorial de Louis Powell qui s'intitule Le monôme des zombies. Et donc l'article a été bouclé le mercredi précédent, vous le signalez dans votre ouvrage. Et je lis donc une partie de cet éditorial. « Ce sont les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats de Coluche et de Renaud, et somme toute les produits de la culture langue. Ils sont ivres d'une générosité au degré zéro, qui ressemble à de l'amour, mais se retourne contre tout exemple ou projet d'ordre. » L'ensemble des mesures que prend la société pour ne pas achever de se dissoudre. Sélection, promotion de l'effort personnel et de la responsabilité individuelle, code de la nationalité, lutte contre la drogue, etc. les hérissent. Ils ont peur de manquer de mœurs avachies. Voilà tous leurs sentiments révolutionnaires. C'est une jeunesse atteinte d'un sida mental. Elle a perdu ses immunités naturelles. Tous les virus décomposant l'atteignent.
C'est d'une violence, d'une radicalité. C'est un morceau de polémique extraordinaire.
Ah oui.
Powell, c'était un styliste remarquable. Hein, cet éditorial a été bu par la colère. Et quand il était en colère, c'était un pamphlétaire digne de la grande tradition pamphlétaire française. Hein. Et au-delà de la forme, en effet, il désignait le fond qui était voilà, l'abandon de la jeunesse à toutes les modes de l'époque, la déstructuration mentale. C'était déjà dans une époque où je dirais, il y a eu un grand recul de la christianisation dans la société française. La médiatisation à outrance avait commencé, c'était avant Internet. Mais enfin, voilà, les enfants, la jeunesse était le fruit de la télé, d'une civilisation des loisirs déjà. On était post-68, donc une jeunesse qui n'était pas passé par sous les fourches caudines de l'éducation, de l'autorité, des oukases parentaux, tout ça avait volé en éclats et c'était le résultat. Moi, je rappelle une chose qui m'avait frappé aussi par rapport, là, on revient un peu à l'actualité, mais c'était déjà en 1986, parce que j'étais... 40 ans, absolument. J'étais allé voir une de ces manifestations pour voir, comme ça, comme spectateur. Hein. Et j'avais été frappé par, comment le dire délicatement, par le nombre de jeunes issus de la diversité au sein de cette jeunesse qui était à Paris, parisienne. Voilà. Je voyais des changements démographiques qui étaient déjà à l'œuvre il y a 40 ans.
Alors justement, Jean Sévillia, on va peut-être rester sur cette question avant de rentrer sur des questions plus historiques. Vous parliez tout à l'heure du problème migratoire, qui était un problème qui était vu par même par la gauche, qui était un sujet qui était abordé maintenant même par la gauche. Et là où je voulais peut-être vous reprendre un peu, c'est que vous disiez, sauf peut-être par LFI. Moi, il me semble que là où le terrorisme intellectuel est quand même extraordinaire dans son fonctionnement, c'est que ceux qui finalement ont le droit de poser presque le véritable constat sans qu'on le leur reproche, c'est précisément LFI. C'est-à-dire que quand LFI parle de la Nouvelle France, si c'est pas évoqué de façon criante le problème migratoire, enfin alors là je ne comprends plus rien. Et quand Mélenchon dresse un portrait en s'adressant à ses interlocuteurs et en parlant de la salmine blanche, de l'homme blanc, si ce n'est pas un discours racisé, alors je ne comprends plus rien. Donc il y a vraiment un constat migratoire totalement maintenant assumé, mais de façon positive par LFI dans la création d'une nouvelle France qui est, comme le rappelait Maëlys Cluzel tout à l'heure dans son bulletin d'information, les élections, oui, elles se font dans les urnes, mais les urnes traduisent la démographie.
C'est certain. Alors, depuis 20 ans, j'ai 10 ans, je veux dire, une formule qui est la formule du grand remplacement est une formule maudite. Les hommes politiques, c'est une formule qui a été inventée en l'occurrence par un écrivain, Renaud Camus. C'est un constat simple, hein, mais les hommes politiques qui emploient la formule et tous ceux qui emploient la formule ont été pendant 10 ans démonisés. Voilà, c'est un fantasme, c'est une vision complotiste, d'extrême droite, etc., etc. Et aujourd'hui, comme vous venez de le rappeler, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la gauche extrême revendique ce... Alors, elle n'emploie pas l'expression « grand remplacement », mais elle revendique, le dit « oui, il y a eu un point à remplacement », c'est-à-dire qu'on constate que les populations d'origine gauloise sont devenues minoritaires, voire absentes sur certains pans du territoire, et chez les filles, on s'en vante. Voilà. Alors, c'est une vision racisée, comme vous le disiez, qui pour moi est une vision assez terrifiante, d'abord parce que c'est une sorte de recul par rapport à toute une tradition française, enfin la tradition d'intégration française. Alors, je crois pas à la logique bisounours, même intégrer des immigrés italiens, espagnols n'a pas toujours été si facile, hein, les différences culturelles existent dans notre nation, mais enfin ça a quand même plus ou moins fonctionné. Il y avait un modèle d'intégratoire par l'école, par le service militaire, etc., qu'on a cassé. Et maintenant, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'il y a des populations arrivent chez nous et elles sont invitées à rentrer chez nous. Elles arrivent comme elles veulent. Venez comme vous êtes, quoi. C'est comme, je ne sais plus quelle chaîne, je ne sais pas si c'est IKEA ou je ne sais pas quoi, enfin, qui a cette formule, qui avait un slogan publicitaire de cette nature. Voilà. Et donc, il y a telle enseigne qu'il y a des communes entières où, d'abord, dans le 93, les familles juives ne peuvent pas mettre leurs enfants dans l'enseignement public. Hein. Ce qui, par rapport au grand idéal républicain de l'école pour tous, etc., avait été un recul. Je ne suis pas un adepte de la vision de l'éducation nationale de façon Jules Ferry. Mais enfin, objectivement, il y avait une sorte d'idéal. Cet idéal est totalement bafoué, oublié. Voilà. Et donc, on cède la place à une vision totalement de la société qui est complètement communautarisé et même, enfin, de façon radicale. C'est qu'il y a 10 ans, 15 ans, on constatait qu'il y avait des communautés. Et là, il n'y a même plus de communautés, puisqu'il y a une seule communauté qui s'impose. Voilà. Donc, c'est une vision raciale de l'organisation sociale qui me paraît terrifiante, parce que traditionnellement, la société française est constituée de gens de différentes origines, et le propre de la nation, c'est de rassembler des gens d'origine différente. Mais à partir du moment où on considère que la nation est un cadre qui n'est plus valide, où c'est seulement l'appartenance raciale ou religieuse, mais inversée au fond, c'est-à-dire qu'il ne faut plus être chrétien, il faut avoir la porte est ouverte à toutes les pratiques. On fait les yeux doux, enfin le christianisme est considéré comme coupable, et en revanche l'islam est toujours lavé de tout péché. Voilà, il y a une sorte d'aversion totale. Et tout ça, malheureusement, est très 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 préoccupant, parce qu'il y a certains pans du territoire, les territoires perdus de la République, sur la formule célèbre, qui sont les territoires perdus de la France, d'une certaine manière. Il y a des enclaves qui sont pratiquement des enclaves étrangères sur le sol français.
Alors Jean Sévilla, je rappelle aux auditeurs que vous avez publié en 2000 « Le terrorisme intellectuel » et en 2025 « Les habits neufs du terrorisme intellectuel » aux éditions Perrin. Vous avez également publié il y a quelques années un ouvrage qui s'intitule « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie » et qui était un livre dans lequel j'avais particulièrement été intéressée par ce que vous disiez de la prise de conscience du général de Gaulle, même si là aussi ça va déplaire à certains de nos auditeurs, mais qui était une prise de conscience très précoce, du problème démographique de l'Algérie et donc de la question migratoire. Et là aussi, c'est assez cocasse d'imaginer que les gens de gauche, qui sont excessivement favorables à la décolonisation, oublient que le général de Gaulle, parmi la raison moteur hein, de sa décision, c'est précisément l'inquiétude du problème migratoire. Et là, on se retrouve finalement dans la même solution. C'est-à-dire que lui, il s'est coupé d'un bras, le bras étant l'Algérie, mais là, on a un territoire maintenant national dont il est difficile de se couper de certains de nos orteils ou de nos doigts. Or, on a un peu l'impression qu'il va falloir avoir ce constat-là.
C'est-à-dire qu'on avait un problème qui était un problème extrêmement complexe au sein de la société française du temps avant l'indépendance de l'Algérie, du fait que l'Algérie était un statut, c'était le territoire national hein, depuis très longtemps, depuis 1848 c'était des départements français, mais avec deux types de populations ayant des traditions. Alors, à partir de 1947, il n'y a pratiquement plus de différence juridique. Tous les habitants de l'Algérie, les musulmans ou européens, d'origine européenne, ont les mêmes droits de la nationalité et de la citoyenneté. Mais enfin, il y a deux communautés de types assez différents et quand même structurées par le fait religieux, très important, et qui avaient un potentiel démographique de nature radicalement différente. Je veux dire, la population musulmane algérienne avait une croissance extrêmement importante, à peu près égale à celle du Bangladesh. Voilà. Les musulmans d'Algérie sont passés de schématiquement de 3 millions au début du 19e siècle à 9 millions en 1960. Les Européens d'Algérie sont passés de 500 000 à 900 000. Voilà. Donc, De Gaulle avait vu le problème. Quoi, voilà. Et ce problème qu'on avait outre-mer, au-delà de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, on l'a maintenant sur le sol national. Donc, en effet, c'est ça qui est assez préoccupant, est un euphémisme. Comment résoudre le problème? Moi, je n'ai pas la solution toute faite. Je n'ai pas la solution idéale. Si, sur le plan en théorie, voilà, il faut, théorie, oui, il faudrait réapprendre la France, faire prendre conscience à ceux qui arrivent ici s'ils deviennent français, ben il faut qu'ils le soient français. Et il faudrait qu'ils cessent d'en arriver, parce que de toute façon, on a un problème tout à fait impossible à résoudre. Mais enfin, on est confronté à des problèmes qui étaient ceux déjà du 19e siècle ou du 20e siècle, que la France n'a jamais su résoudre, la République n'a pas su résoudre, et maintenant on les a sur notre propre sol. Voilà. Donc c'est en effet un sujet de préoccupation majeure. Alors, évidemment, je sais que ça fait de la peine à ceux qui ont beaucoup aimé l'Algérie française, et moi, c'est des gens que je défends, que j'ai aimé, que j'aime encore, voilà. Mais parfois, j'entends qui me disent « Ah, si on avait gardé l'Algérie ». Enfin, si on avait gardé l'Algérie, il faut être conscient que nous aurions aujourd'hui à peu près 43, si je ne me trompe pas, concitoyens, de l'autre côté de la Méditerranée, qui serait notre concitoyen totalement sur le plan juridique, de culture musulmane. Voilà. Et l'Algérie s'accroît, qui est un pays de la démographie tout à fait considérable, s'accroît d'un million d'habitants chaque année. Hein. Et je crois qu'ils sont 43 millions cette année, ils sont 44 millions dans deux ans, 47, etc. Voilà. Donc, de toute façon, dire on aurait dû gagner l'Algérie, mais c'était un problème insoluble, c'était pas possible. Voilà. Ou alors, enfin, il serait majoritaire à l'Assemblée nationale, et voilà, avec toutes les conséquences qui en sont. Donc c'est un problème extrêmement redoutable qui prouve que les erreurs de l'histoire se payent toujours, même si elles se payent un siècle ou deux après, elles se payent. Voilà, on a tenté au XVIIIe siècle de faire un territoire français, d'un territoire qui a une population qui n'est pas de tradition française, qui n'est pas de tradition chrétienne, c'était un pari impossible. Alors, je crois qu'il aurait même fallu organiser les choses autrement. Je ne dis pas, c'est pas pour condamner la colonisation française, qui a fait des belles choses, voilà, mais il aurait fallu préparer notre départ tranquillement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, en faisant monter au pouvoir une élite musulmane francophile. Ce travail-là n'a pas été fait, et à la place, l'Algérie était prise en main par une élite anti-française et très radicale.
Donc votre livre, Les vérités cachées de la guerre d'Algérie, chez Perrin également.
Chez Perrin également.
Et c'était en...
chez Fayard. Maintenant, il existe en poche dans la collection Tempus, qui était chez Perrin, en effet.
Ah oui, d'accord. Donc, toujours disponible, j'imagine.
Il est toujours disponible, constamment réimprimé, et mon éditeur en vend régulièrement. Voilà, c'est devenu une sorte de classique.
Et le terrorisme intellectuel, le Nouvelle Mouture, les habits neufs du terrorisme intellectuel, n'est pas encore en Tempus?
Pas encore. Comme le grand format se vend encore, mon éditeur attend un peu pour le mettre en poche.
Voilà. Mmh, d'accord. Donc je rappelle que Jean Sevilla a publié en 2025 une version corrigée, augmentée, retravaillée du terrorisme intellectuel, les habits neufs du terrorisme intellectuel aux éditions Perrin. Alors cher Jean Sevilla, vous avez évoqué, utilisé le mot de fascisme tout à l'heure, quand on prononce même le mot antifa, c'est une abréviation d'antifasciste, donc le mot fascisme résonne toujours dans notre vocabulaire médiatique. J'ai reçu très souvent à ce micro Frédéric Lemoal, qui est un des historiens les plus spécialisés dans l'histoire de l'Italie contemporaine, de l'Italie de la Seconde Guerre mondiale et dans l'histoire du fascisme. Il a d'ailleurs écrit une histoire du fascisme et lui dit de façon très formelle le fascisme n'existe plus. C'est-à-dire que le fascisme était un phénomène à la fois très marqué historiquement, très daté historiquement et très marqué aussi géographiquement. Donc, employer ce mot, c'est ne pas savoir ce qu'est le fascisme. Or, il est toujours employé, et là, on rentre bien dans le phénomène du terrorisme intellectuel.
Oui, alors le fascisme, pour aller très vite, c'est les deux phénomènes. Alors, le fascisme en soi, c'est d'abord c'est le fascisme mussolinien, au sens strict. D'une manière extensive, on peut assimiler le nazisme, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons. Voilà. Mais ce sont deux phénomènes liés à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et c'est l'accession dans des pays qui ont perdu la guerre, ou qui ont été... L'Italie a été... La Première Guerre mondiale, l'Italie n'a pas perdu la guerre, mais enfin, elle a été victime de bouleversements très très forts. Et à la suite de ça, il y a une grande crise sociale, politique, et il y a un dictateur qui émerge et qui se présente comme le sauveur de la nation, Hitler en Allemagne, enfin Mussolini en Italie, mais Hitler en Allemagne, et qui va monter une organisation de masse, un parti de masse, ce parti de masse qui pratique la violence. Les fascistes italiens étaient un parti extrêmement violent qui cognait sur leur adversaire physiquement. Je veux dire, c'est la même chose pour le Parti National Socialiste. Voilà, et qui va instaurer ensuite un régime de type totalitaire. Voilà. Mais Franco, c'est autre chose, Pétain, c'est autre chose, Dollfuss, c'est autre chose, etc. Voilà. Donc, à partir des années 30, l'international communiste va se dire on va se servir l'étiquette fasciste pour faire un amalgame d'abord autour de Hitler. On prend le pire et comme ça, ça fait peur à tout le monde. Et on fond tous ceux qui sont opposés au communisme, à la gauche, sont potentiellement des fascistes. Voilà. C'est ainsi que le général de Gaulle a été qualifié la propagande du Parti communiste au début, en 1945, il y a des ministres communistes au gouvernement, mais quand de Gaulle quitte le gouvernement, que les ministres communistes quittent le gouvernement, de Gaulle et son parti, le RPF, en 1947, est traité de fasciste dans la propagande communiste. Alors, de Gaulle fasciste, il y a quelque chose d'un peu contradictoire. Enfin, voilà. Donc c'est devenu une formule qui permet de diaboliser l'adversaire et tout ce système-là est en place. Alors il y a des périodes plus ou moins fortes. Ça a été remis en vigueur au moment de la guerre d'Algérie. Tous les défenseurs de l'Algérie étaient fascistes. Voilà. Et cette thématique-là de l'antifascisme, évidemment, ressort très fort à partir des années 80, quoi, à partir de l'émergence sur la scène politique française du Front National. Le Front National, c'est la droite extrême, c'est l'extrême droite, c'est le fasciste. Voilà. Et dans cette logique-là, on n'en est pas sorti. Voilà. Et ce qui est très frappant, c'est que pendant 30 ans, 40 ans, la droite classique a vécu sous l'intimidation de cette formulation et la diabolisation de la droite nationale. La droite a été acceptée par la droite classique. Voilà, c'était l'interdit posé par Jacques Chirac, début des années 80, interdiction de toute alliance électorale, de second tour entre la droite classique et la droite nationale. Et cet interdit pèse toujours sur la politique française et pèse encore, on l'a vu, voilà, demain. manière sidérante. Le meilleur exemple, c'est peut-être Nîmes. Voilà, Nîmes, qui est une ville où la droite, les droites, dans le, les droites sont majoritaires, et Nîmes s'est réveillé lundi matin ou lundi soir, enfin, s'est endormi lundi soir, dimanche soir, pardon, avec un maire communiste. Enfin, c'est sidérant, dans une ville qui est majoritairement à droite.
Voilà. Oui, alors vous faites bien d'en parler, parce que ce qui paraît fou de nos jours, c'est que le Parti communiste se reprend une forme de virginité.
Absolument.
Et même de facette du gentil, face
oui,
à l'affreux
c'est le communisme cassoulet, vous voyez, on a des moustaches, on mange du saucisson, on a un béret, on défend parfois même les paysans, enfin voilà, donc le communisme c'est au fond c'est la vieille France contre la France insoumise qui sont des infréquentables, des excités, etc. Et donc en effet le Parti communiste, comme vous le dites, se revêt d'une nouvelle légitimité par rapport à LFI, c'est assez sidérant, quoi. Donc il faut quand même pas oublier la nature et le passé du Parti communiste qui est un régime un parti de nature totalitaire, quoi, dans les visées dont ont été longtemps l'abandon de la dictature du prolétariat, la théorie de la dictature du prolétariat était relativement récente dans l'histoire du Parti communiste français. Voilà. Alors, objectivement, les communistes du début du XXIe siècle, les communistes français du début du XXIe siècle, ne sont pas ceux de 1950. Je ne suis pas fou non plus. De là à faire passer les paris communistes pour des gentils démocrates et des braves vieux français, il y a un peu de quoi sourire.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez les Mardis de la Mémoire. J'ai le plaisir, Anne Collin, au micro, de recevoir Jean Sévilla, journaliste, essayiste, historien, qui a, comme il nous l'a dit, passé l'essentiel de sa carrière, voire toute sa carrière, au Figaro Magazine, qui continue d'ailleurs à écrire, puisque vous chroniquez toutes les semaines un ou deux livres
d'histoire.
Hein. Et là, le dernier en date, quel est celui que vous avez chroniqué? C'est parfois la question piège, je sais. Moi, quand on me demande quelle est votre dernière émission...
Oui, parce que les choses s'entremêlent. C'est un livre sur l'histoire du duc de Windsor, les collusions du duc de Windsor avec l'Allemagne nazie. Quoi,
oui, bien sûr.
Les tentatives de Churchill pour barrer la route à celui qui a été brièvement roi d'Angleterre et qui était en fait, d'une certaine manière, un dangereux personnage. En fait.
Bien sûr, oui. Très intéressant, évidemment, là aussi, combien il a été facile, combien on peut facilement, en tout cas, salir un pays, une monarchie, quand quelques personnages, on voit bien, c'est ce qui arrive un peu au roi Charles avec son frère.
Voilà, le malheureux, oui. D'ailleurs, je le trouve assez courageux, le roi Charles, parce que assez digne. C'est une épreuve politique, c'est une épreuve pour la couronne, c'est une épreuve personnelle en plus. Voilà, évidemment, quand on sait un peu les horreurs que son qu'il a commis, son frère. Donc voilà, je trouve qu'il y a une certaine dignité du roi Charles.
Oui, bien sûr, oui. Alors là aussi, c'est un peu comme le Parti communiste, on lui redonne une virginité, il ne faut pas oublier quand même qu'il
a tout péché miséricorde. Oui, on est d'accord, avec son épouse.
Avec son épouse, exactement. Mais bon, comme vous dites, à tout péché miséricorde, et puis on n'est pas le roi Charles, et on ne sait pas ce que c'est que d'être fils de la reine Élisabeth et prince de Galles. Pendant si longtemps. Je pense que toute votre carrière au Figaro Magazine, vous aviez le prince de Galles.
Ah, tout à fait. Oui, il a attendu longtemps.
Ah oui, ça c'est l'éternel héritier. Hein. Ouais. Bon. Alors, nous revenons sur notre terrorisme intellectuel où on enlève notre sourire parce que malheureusement la période n'est pas très gaie. Mais c'est vrai que ces communistes qui deviennent les gentils, c'est quand même assez incroyable. Alors, ce mot de terrorisme intellectuel, vous donnez d'ailleurs une définition, vous donnez une vraie définition, et puis dans le début, je crois, de votre avant-propos, vous en donnez, non pas une autre, mais vous résumez un peu en disant une minorité qui continue à régenter le monde, des idées par des méthodes violentes, empêchant tout débat serein et honnête. Mais la définition du terrorisme intellectuel dans son, sa définition de dictionnaire, on va dire, en fait, vous en êtes l'auteur, vous en êtes l'inventeur.
C'est bien possible. Alors, je vous remercie de m'accorder cette paternité. Je n'ai pas exactement souvenir quand j'ai commencé à travailler sur mon livre. J'ai travaillé en 98-99, il est apparu en 2000. Si je suis l'inventeur de la formule « le terrorisme intellectuel », je pense qu'il existait déjà dans le débat public, de manière peut-être beaucoup plus discrète. Voilà. Il se trouve que mon livre lui a donné un éclat. Alors, on m'en attribue la paternité, je ne suis pas sûr que ce soit de l'avoir inventé. Voilà. En revanche, je suis quasiment certain d'avoir été un des premiers à formaliser le constat et l'analyse du phénomène, qui est ce phénomène du débat politique par une minorité qui, justement, dont la pratique consiste à ne pas débattre du fond avec son adversaire, mais à diaboliser son adversaire. Le principe du terrorisme intellectuel, c'est je te colle une étiquette, tu es raciste, tu es fasciste, tu es d'extrême droite, tu es antisémite, tu es homophobe, tu es tatatatata, et donc tu es indigne qu'on parle avec toi, et donc on ne parle plus des problèmes. Voilà. C'est ça le terrorisme intellectuel, c'est discréditer l'adversaire, délégitimer l'adversaire, lui ôter le droit à la parole, le droit à intervenir dans le débat public, de façon à ce que ces idées ne puissent pas s'exprimer. Voilà. Et donc, c'était une méthode de censure, de contrôle des idées, de contrôle des pensées. C'est une méthode pré-totalitaire, c'est du totalitarisme doux. Moi, je me méfie, attention, au sens des mots, les gens qui disent « nous vivons aujourd'hui sous une dictature », ils parlaient d'Emmanuel Macron. Bon, moi, je n'aime pas du tout Macron. Enfin, dictature de Macron, oui et non. Vous et moi allons dormir dans notre lit ce soir, nous serions dans une dictature, nous dormirions en prison. Bon, gardons un sens au mot. Hein.
Oui, ou quelqu'un vous attendrait à la sortie, que vous avez dit que vous n'aimiez pas Emmanuel Macron. Voilà, on n'est pas, évidemment, dans ce cadre-là. Voilà. Ceci dit, on fait très attention à ce que l'on dit.
Ah, mais absolument. Alors, ce phénomène, absolument.
Donc, que de façon publique. Pardon de vous réinterrompre,
oui,
Jean Sévillard.
Regardez
maintenant, quand vous êtes dans un train avec un enfant, vous faites très attention à la façon avec laquelle vous allez le réprimander, même s'il fait du bruit et qu'il gêne tout le monde. Quand vous êtes dans un RER et que quelqu'un vous colle pour passer derrière vous parce qu'il n'a pas de ticket et qui, contrairement aux publicités de la RATP, ne me semble pas être très... Alors, on ne dit pas gaulois, comment on dit caucasien. Pas très caucasien. Vous vous retenez pour lui faire une remarque. Parce que ce n'est pas trop le coup que lui va vous porter, vous craignez, mais la remarque de celui qui vous a entendu lui faire une remarque. Enfin, on fait quand même très attention à ce que l'on dit.
Tout à fait. Ce phénomène de terrorisme intellectuel engendre un phénomène d'autocensure. D'autant que ça, c'est un développement nouveau qui s'est accru par rapport aux années 2000 quand j'ai publié mon livre. C'est la judiciarisation du débat d'idées et même de tout propos. Enfin, alors, le 17 septembre, Jean-Marie Le Pen l'a connu souvent. Ça ne date pas d'aujourd'hui, dans les années 80. Maintenant c'est le phénomène s'est accru. Et en plus, avec les réseaux sociaux qui ont démultiplié le phénomène. Si vous écrivez un mot de trop sur Internet, si vous écrivez sur un des réseaux sociaux que vous utilisez, si une formule malheureuse peut vous entraîner très très loin. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, et du coup on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. C'est un phénomène d'autocensure. Alors, parfois, une forme d'autocensure peut aussi être saine, je dirais. La vie en société, et au-delà même de la politique, suppose, non, on ne dit pas toujours ce qu'on pense. Hein. Je veux dire, voilà, si je vois une dame et que je trouve que sa robe est très laide, je ne vais pas lui dire « Madame, votre robe est laide, ce ne serait pas poli. Voilà. » Même si, objectivement, sa robe est laide, je garde cette remarque pour moi. Voilà. Non, mais je veux dire, la toute vie en société suppose des retenues, des mécanismes de politesse, de retenue, de respect de l'autre. Voilà. Mais là, il y a un phénomène qui est très pervers, quoi, parce que et on finit soi-même par, d'une certaine manière, par, c'est tellement fort, tellement violent qu'on finit même par se s'auto-censurer, mais parfois dans un cadre un peu privé, quoi. C'est-à-dire, on fait attention, alors peut-être pas en famille, mais avec des amis ou des gens qu'on connaît pas bien, on est là très 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 hésitant sur les mots. Et d'ailleurs, il y a une sorte de paradoxe, c'est que dans notre société qui est d'une certaine manière très violente, physiquement, on peut se prendre un coup de couteau pour une cigarette refusée dans le métro, enfin, à cet ordre-là, à peur du choc des mots. Le langage devient aseptisé d'une certaine manière, pas chez Jean-Luc Mélenchon, je sais bien, mais enfin, ça c'est l'extrême. Mais souvent en politique, le langage est plus aseptisé aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être à d'autres époques. Alors que par ailleurs, la violence physique existe dans la rue.
Alors, cher Jean Sévilla, ce mot de toute façon de terrorisme intellectuel, vous vous souvenez comme moi, puisque vous avez bien connu Jean Ferré, qu'il n'aimait pas qu'on parle de nazis, puisqu'il disait que ça gommait la dimension socialiste du national-socialisme, il voulait qu'on parle des nationaux-socialistes. Le mot terrorisme intellectuel nous fait presque oublier que dans la racine de terrorisme, il y a terreur, et que la genèse tout de même du terrorisme, c'est la terreur avec un grand T qui correspond à une période de notre histoire de France, là aussi assumée par une gauche très radicale, mais assumée par une gauche tout court. Alors on a dit qu'au moment où il y avait la grande exposition sur Marie-Antoinette à la Conciergerie, que Brigitte Macron aurait dit que la France, ou elle en tout cas, ne se remettait pas de ce qu'on avait fait à Marie-Antoinette. Mais je pense que la France ne se remet pas de ce qu'elle a fait à Marie-Antoinette, effectivement, et à Louis XVI.
Absolument. Alors, il y a une tradition de violence politique en France qui a précédé la Révolution française. Hein, je veux dire, les guerres de religion sont un moment d'épouvantable violence. D'épouvantable violence. Mais enfin, la terreur au sens historique strict 1793-1794 introduit un système de contrôle social par la violence, la dictature du minorité. La dictature de la rue, la pression de la rue sur les institutions politiques qui est d'essence moderne et qui s'est transférée ensuite à travers le 19e et le 20e siècle. Enfin, le régime bolchevique, d'une certaine manière, est largement l'héritier de la terreur de 1793, et une certaine violence qui existe dans le national-socialisme est aussi l'héritier de cette formule. Enfin, le régime totalitaire moderne, jusqu'à Pol Pot, jusqu'à toutes ces manifestations les plus atroces, s'en sont tous revendiqués à la fois de Robespierre et de Lénine. Ce phénomène-là est très ancien et il est très profondément ancré dans la culture politique de la gauche française. Alors, au moment de la terrible affaire de Lyon, beaucoup de gens se surveillaient, on dit c'est inadmissible, cette violence de la gauche extrême, de LFI, etc. Alors, évidemment, moi je suis bien d'accord que c'est inadmissible. Enfin, c'est pas vraiment nouveau, on a eu l'impression qu'il y a des gens. Certains à droite se sont comme s'ils se réveillaient, ils s'aperçoivent de quelque chose. Enfin, c'est très ancien. Cette tradition, c'est 1793, c'est la Commune, c'est le bolchevisme, c'est le Parti communiste. On a oublié la violence du discours politique et de la pratique politique du Parti communiste français, du premier Parti communiste français, dès les années 20, dès les années 1920. C'est un parti qui aspire et qui tient la gauche modérée, c'est-à-dire les socialistes, pour des traîtres, qui aspire à une formule de dictature du prolétariat et qui n'hésite pas à pratiquer la violence. Voilà. Alors, il se trouve qu'à partir du Front populaire, et etc., dans la résistance, il y a eu une sorte d'alliance entre communistes et socialistes, ce qui fait qu'on a eu tendance un petit peu à les assimiler. Mais non, il y a une tradition de violence dans le Parti communiste qui est très, très, très dure et qui va durer jusqu'à la guerre d'Algérie. Et j'ai vu une émission de télévision toute récente où Stéphane Courtois, l'historien, le grand historien des communistes, racontait qu'il avait... j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus quel grand chef du Parti communiste qui, dans les années 80, en faisait l'aveu, a dit... on a toujours, c'était avant la, non, c'était même au début des années 90, c'est sidérant, début des années 90, donc après la chute du mur, il disait, nous avons toujours fonctionné, nous, communistes français, au fond, sur l'aspiration à la dictature, voilà. C'est qu'au fond, ils faisaient l'aveu qu'ils n'avaient jamais été des démocrates au sens où on l'entend de manière commune. C'est-à-dire, on est là dans les années 1990, c'est pas si ancien. Voilà. Donc là, oui, la violence, la radicalité de la gauche, la gauche extrême. Alors, il se trouve qu'évidemment, aujourd'hui, le Parti communiste a longtemps incarné cette gauche extrême, et comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, le Parti communiste se part d'une sorte de vertu bourgeoise, je mets les guillemets, il a été dépassé sur sa gauche. Enfin, il y a une tradition à la gauche, de la gauche, que ce soit au PC, LFI, dans les groupes trotskistes très si puissants dans les années 70-1980. Il ne faut pas oublier quelle était la violence du service d'ordre de la Ligue communiste dans les années 1980-1990. C'était des machines de guerre. Hein. Cette tradition-là n'est pas nouvelle. Elle est liée. Et ça, c'est dans l'ADN de la gauche française. C'est l'idéal, c'est l'idéal de 93, de 1793, c'est qu'il faut épurer la société des éléments qui résistent à la révolution. Il y a le peuple irait vers une grande aube nouvelle et tout ce qui s'oppose à cette aube est fait de la révolution, de fraternité, etc., d'égalité. Eh bien, il faut éliminer les gens et physiquement parce que c'est le meilleur moyen qu'il n'y ait pas d'obstacle devant l'espérance révolutionnaire. Non, il y a une tradition de violence, vraiment qui est intrinsèque à la gauche extrême.
Et d'ailleurs, ce mot de Nouvelle-France, employé à la fois par Jean-Luc Mélenchon, par les LFistes et par les deux nouveaux maires emblématiques de Roubaix et de Saint-Denis, est un mot profondément à connotation révolutionnaire. J'entends Révolution française, la création d'un nouvel homme, d'un nouveau monde, et donc là d'une nouvelle France qui est une France dont le grand remplacement est assumé, voire est considéré. On parlait déjà hein, dans les années Mitterrand, on disait une chance pour la France, ça voulait dire un jeune émigré a priori issu d'un milieu défavorisé qui était remarqué à l'école et qui finalement finissait dans un rodéo sauvage. Mais là, on a effectivement une terminologie profondément révolutionnaire.
Avec une symbolique extrêmement forte quand on y songe. Enfin, je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est sidérant. C'est Saint-Denis, quoi. Saint-Denis, la ville des rois de France. Saint-Denis, où il y a les tombeaux de nos rois, qui ont été profanés. Enfin,
par la Révolution, justement.
Par la Révolution, évidemment. Mais enfin, qui reste la basilique des rois de France, avec ce collège de la Légion d'honneur où des jeunes filles sont éduquées comme on l'était il y a 100 ans, et qui sont au milieu d'autre chose, quoi, d'une nouvelle France, je mets les guillemets. Mathieu Bocoté a pas mal tweeté en disant « Mais non, la nouvelle France, c'est le Québec !» C'était une sorte de plaisanterie historique. Il faut rappeler que le nom de la nouvelle France, c'était le nom du Canada au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. Mais oui, symbolique. Saint-Denis, c'est vraiment très fort. Quoi. Un maire et les filles dans la ville des rois de France, c'est vraiment la volonté, c'est une France qui se substitue à l'autre. C'est très, très, très sidérant.
Et j'avais reçu un adjoint au maire, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, de l'ancienne municipalité de Saint-Denis, qui était en charge de ce projet qui, je pense, va aboutir, de la flèche de la basilique. Oui. Et là, on voyait bien qu'on était tout de même dans un autre univers. Nous étions on va dire opposé politiquement, mais ce monsieur était venu de façon extrêmement sympathique à Radio Courtoisie présenter un projet merveilleux, en plus de mise en valeur des artisans. C'était un chantier ouvert dans lequel on pouvait voir comment des tailleurs de pierre, des vitriers, des ferronniers. Et puis c'était un projet qui avait un sens historique et architectural. Alors j'imagine qu'il va se terminer, mais enfin, on est là, oui, on est dans une rupture. Enfin, quand on voit les scènes qui ont accompagné la victoire de cet homme, qui mérite peut-être de gagner, hein, je ne le connais pas, mais c'est quand même assez. Enfin, c'est un choc.
C'est un choc. C'est un choc. C'est pas le premier, malheureusement, que nous allons connaître.
Alors,
je pense.
Justement, Jean Sevilla, il nous reste 5 minutes à peu près. On a eu 2000, on a eu 2025 dans la parution de vos deux ouvrages. Est-ce que le temps s'accélère? Est-ce qu'en un an, le terrorisme intellectuel vous semble reprendre des galons? Est-ce qu'on est bien loin du début de la fin?
Non, on n'est pas loin, c'est pas le début de la fin. On en est loin du début de la fin. Je veux dire, non, le phénomène est constant, à mon sens. Voilà. Et je ne crois pas, contrairement à ce que voyait une époque où ça se disait un peu à droite, la droite a gagné la bataille des idées, etc., etc. C'est une chose à laquelle je n'ai jamais cru. Voilà. La gauche reste majoritaire dans l'ordre des institutions culturelles, de l'éducation nationale, des représentations, mais au sens culturel du terme. Quoi. Je veux dire, on est toujours dans cet imaginaire, dans cette idée, dans les mentalités que la gauche c'est bien, la droite c'est pas bien, et que la gauche extrême, bon, c'est un peu excité, mais c'est pardonnable, et que la droite extrême, c'est impardonnable. Voilà, on est toujours dans ce paradigme-là, hein, donc, et qui on n'en sort pas. Donc, de ce point de vue-là, le terrorisme intellectuel n'a pas faibli. Alors, même si la réponse qui est en face du terrorisme intellectuel est plus importante aujourd'hui qu'il y a 30 ans, et je m'en réjouis, bien sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, je m'en réjouis. Mais enfin, le phénomène est constant. On l'a vu, toute la campagne des municipales est marquée par ça. Je veux dire, et puis, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, enfin, je veux dire, Nîmes, ville de droite, deux tiers à droite, se réveille, se retrouve dimanche soir avec un maire communiste, parce qu'il est interdit à la droite classique de s'allier avec la droite nationale. Voilà. Donc, interdit posé par Jacques Chirac il y a 30 ans et dont on n'est pas sorti.
Et une participation en baisse avec une abstention très importante. Oui, donc là aussi, l'absence de réaction alerte.
Voilà. Alors, puisqu'il reste peu de temps, j'aurais quand même, pour tempérer pour les municipales, il y a quand même quelques, il ne faudrait pas oublier les endroits où le schéma de l'interdit n'a pas fonctionné. Hein. Moi, je pense aux villes du Sud, j'ai des liens avec le Sud, enfin, la ville de Menton, Carpentras, Nice, voilà. Donc, il y a quand même, attention, les choses avancent, et puis le résultat du Rassemblement National, qui a échoué à prendre Marseille, mais enfin, il a un résultat qui est quand même historique, hein, près de 40%, si vous voulez, c'est vraiment bon, enfin, je vous dis ça à la louche. Donc il y a quand même, attention, il faut être conscient et lucide face aux obstacles qui se dressent, mais enfin, il faut aussi être conscient du chemin qui a été fait par rapport à il y a 30 ans. De ce point de vue-là, il y a quand même des signes d'espoir.
Alors, Jean Sevilla, je rappelle aux auditeurs que votre ouvrage de 2000, Le terrorisme intellectuel, qui avait donc été publié chez Fayard, mais qui est en Timpus.
Non, c'est non, le terrorisme intellectuel, c'est oui. Perrin.
Voilà, alors,
c'est...
le terrorisme intellectuel de 2000, toujours chez Perrin. Les habits neufs du terrorisme intellectuel, toujours chez Perrin, et pas encore en Timpus. En revanche, Les vérités cachées de la guerre d'Algérie.
Était sorti chez Fayard, mais existe aujourd'hui.
En Timpus chez Perrin. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à se plonger ou à se replonger dans Les habits neufs du terrorisme intellectuel aux éditions Perrin. Comme l'a dit Mathieu Boccoté, on en ressort d'abord plus intelligent, c'est quand même important. Et puis, on en ressort avec une dette envers Jean Sevilla. Et on a aussi des armes pour débattre, hein, ce qui est quand même extrêmement important, se former, se cultiver, c'est peut-être la grande réponse.
Oui, je pense que mon livre est aussi, enfin, un livre d'histoire, hein, donc fait pour mémoriser des noms, des citations, des dates, c'est important.
Merci beaucoup Jean Sevilla.
Merci Anne.
Chers auditeurs, à mardi prochain.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire créés par Pierre Chaunu et dirigé par Anne Colin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 24 mars 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.